Je vous invite à chercher dans votre Bible, on continue notre étude de l'évangile de Luc. Ce matin, on voit Jésus, l'homme parfait, et je vous propose de lire les versets du chapitre 3, verset 21, au chapitre 4, verset 13. Je lis, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Je vais sauter la lecture de quelques versets où il y en a beaucoup de noms. Ce sont que des noms de garçons. Je sais qu'il y a plusieurs qui cherchent des noms de garçons en ce moment. Vous pourrez relire ça à tête reposée. Juste verset 31, « Fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. » Et puis je saute encore jusqu'au verset 34, « Fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor. » Et puis verset 38, « Fils d'Enos. » Fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous allons voir ce matin le début du ministère du Seigneur Jésus. Et Jésus se dévoile comme l'homme parfait. Luc nous le présente comme tel. On verra tout d'abord Jésus accomplissant ce qui était juste. On verra ensuite Jésus a représenter toute la race humaine, et puis enfin, Jésus a triomphé de toutes les tentations. Jésus a accompli ce qui était juste. On voit cela dans le verset 21 et 22. Ici, c'est le récit de son baptême, et c'est d'une étonnante sobriété. Juste deux versets, juste un seul, expliquant, voilà, les gens venaient en foule se faire baptiser, Jésus aussi fut baptisé. C'est tout. C'est son cousin Jean-Baptiste qui le baptise et l'évangile de Matthieu nous donne un petit peu plus de précision sur ce baptême. J'aimerais que l'on regarde très rapidement en Matthieu 3, versets 13 à 15. Je relis ici, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Ici, l'évangile de Matthieu nous rapporte que Jean-Baptiste s'opposa d'abord au fait que Jésus soit baptisé par lui. Et ça a du sens. Il faut se souvenir que Jean baptisait d'un baptême de repentance. Hein, dans notre passage, en Matthieu, on peut relire les versets 5 et 6, il est dit « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. » Et Jésus n'a pas de péché, il n'y a rien à confesser, il n'y a rien à se repentir. Et Jean lui, se dit « Mais Jésus, il ne faut pas que tu viennes, que je te baptise de repentance. Sinon, les gens vont penser que toi, tu as besoin de repentance. » Vous voyez la chose? Et Jésus répond, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Ou selon la version en français courant, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Ce qui est juste pour les hommes, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'être lavés de leurs péchés avant de paraître dans la présence de Dieu. » Et Jésus vient pour mener une vie d'homme parfaite, qui plaise à Dieu aussi, il se fait baptiser. Un autre événement nous aide peut-être à comprendre un petit peu cette pensée. En Matthieu, toujours, mais au chapitre 17, au verset 24 à 27, Matthieu 17, il est dit ici, « Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?» Et il dit, « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Il dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Ici, ils sont à Capernaum, c'est la ville de Jésus. Les agents qui sont chargés de percevoir l'impôt pour le temple viennent pour trouver Pierre et lui demandent « Mais est-ce que ton maître, lui, il ne paye pas l'impôt, lui ?» Et il dit « Si, 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 il va payer. » Jésus rentre à la maison et il s'apprête à parler à Jésus, mais Jésus le devance et lui dit « Mais... » et lui donne cette question. Est-ce que les rois soumettent leur propre fils à l'impôt pour l'entretien de leur palais? Non. Non, ils taxent les autres, mais pas leurs propres enfants. Ça n'a pas de sens. Et donc, Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas redevable de l'impôt du temple, c'est-à-dire de sa propre maison, de la maison de son père. Mais si lui en est exempté, les autres doivent le payer aussi parce qu'il mène une vie parfaite, irréprochable. Alors il paye l'impôt. Mais pour que Pierre ne tire pas de mauvaise conclusion de l'événement, la mauvaise conclusion, ce serait de dire ben, « Jésus, il est comme nous, quoi, c'est un homme et il doit payer les impôts, c'est un pécheur. » La pièce avec laquelle Jésus s'acquitte de l'impôt est miraculeusement donnée dans la bouche d'un poisson. Ici, c'est la même chose. Le seul qui n'ait pas besoin de repentance se fait baptiser du baptême de Jean parce que c'est juste pour un homme de l'être. Et là non plus, personne ne tire de mauvaises conclusions parce qu'au moment de son baptême, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descendit sous la forme corporelle, sous une forme corporelle, comme une colombe. La chose est visible de tous. Et puis la voix de Dieu se fait entendre. « Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Et le signe visible du Saint-Esprit descendant sur le Seigneur, la voix audible du Père ne sont pas pour le Fils, mais pour la foule présente. Ce n'est pas à ce moment-là que le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur de Jésus. Le Saint-Esprit est chez lui dans Jésus. Depuis le commencement, depuis sa naissance, il a été engendré par l'Esprit-Saint. Il est rempli du Saint-Esprit constamment, en permanence. Mais ici, il y a le doigt de Dieu qui pointe son Fils et qui le fait reconnaître comme le Fils bien-aimé, son Fils bien-aimé. Jésus a mené la vie parfaite que nous devrions vivre, ou que nous aurions dû vivre. Il est monté à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques, fête qui célèbre la délivrance, lui qui seul n'avait pas besoin de délivrance. Il est soumis à ses parents, lui à qui toutes choses sont soumises. Ici, Luc nous donne encore un détail, il dit que Jésus prie au moment de son baptême. Lui qui est Dieu et qui vit en parfaite communion avec son Père, il prie. Jésus accomplit tout ce qui est juste qu'un homme accomplisse. C'est pour cela qu'il a été baptisé. Et puis, Jésus a représenté toute la race humaine. Ça, c'est les versets suivants, versets 23 à 38 dans notre passage. Luc, il nous donne toute la généalogie de Jésus, partant de Jésus et remontant jusqu'à Adam. Chez Luc, la partie qui est comprise entre Joseph et David est entièrement différente de la section analogue chez Matthieu. Alors, ça pose un problème. Sauf que ces deux généalogies peuvent vraiment s'harmoniser lorsque l'on comprend que Luc présente la généalogie de Jésus par Marie et que Matthieu présente la généalogie de Jésus par Joseph. Ainsi, Jésus est héritier de la lignée royale par son père légal, tandis que la preuve qu'il est physiquement un descendant de David passe par Marie. Luc ne mentionne aucune femme dans sa généalogie. Il ne mentionne même pas Marie. Joseph est ici fils d'Élie, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Or, dans la généalogie de Matthieu, il nous est dit qu'il est engendré par Jacob. Donc, en réalité, il est fils d'Élie par mariage. C'est-à-dire que Élie, c'est le père de Marie, et comme Élie n'a eu que des filles, il est associé, Joseph en tant que mari est associé à Élie. Et c'est pourquoi il a sa place en tant que représentant de la génération de Marie. Là encore, s'il en est un qui peut être exempté de généalogie, c'est lui, le Fils de Dieu. En Hébreu, au chapitre 7, verset 1 à 3, il nous est présenté Melchisédek. Melchisédek, c'est une figure assez énigmatique par certains côtés. Et il est décrit comme étant sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute, « Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu dans toutes ces choses. » Fils de Dieu et sans commencement ni fin. Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. » Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus est de toute éternité. Il n'a pas de généalogie en tant que fils de Dieu. Mais Luc le précise d'ailleurs avec finesse. Au verset 23, il dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. C'est-à-dire qu'ici, il rappelle une fois de plus la naissance virginale de Jésus et que Joseph n'est pas le vrai père de Jésus. Il est son père adoptif. Jésus est fils de Dieu. Mais alors, pourquoi donner la généalogie de Jésus? Parce que par son incarnation, il a été fait vrai homme et vrai Dieu. Un vrai homme qui échappe seul à la corruption du péché. Il est le seul homme qui soit juste et de ce fait, qui puisse satisfaire la justice de Dieu et payer pour nous pécheurs. Luc précise qu'il avait environ 30 ans. À 30 ans, on est un homme dans toute la possession de ses facultés. Je suppose qu'il y a des trentenaires. C'était l'âge auquel le sacrificateur prenait sa fonction. À 30 ans. Il a gardé cette fonction jusqu'à 50 ans. C'était aussi l'âge auquel David est devenu roi à Hébron. Et puis il a régné pendant 40 ans. C'est à cet âge qu'Ézéchiel commença son ministère de prophète. C'est à cet âge que j'ai commencé mon ministère dans cette église. Lol. Il convenait donc que le fils de David, roi d'Israël, le souverain sacrificateur, plus excellent qu'Aaron, qui lui avait besoin d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés, il convenait que le prophète entièrement fidèle, qui nous dit tout ce qu'il fait et tout ce que Dieu veut, convenait que Jésus, le Christ, entre dans ses fonctions à ses 30 ans. Jésus représente toute la race humaine. Les sacrificateurs ont défailli. Les rois se sont détournés de Dieu. Les prophètes n'ont pas été fidèles. Je n'ai pas été le pasteur que j'aurais dû être. Mais lui a été parfaitement fidèle dans tous ses offices. Il est le roi parfait. Il est le souverain sacrificateur excellent. Il est le prophète. Il est le souverain berger, le bon berger. Il est le nouvel Adam, duquel est née une nouvelle race d'hommes, des pécheurs que Dieu déclare justes à cause de Christ, et peut ainsi nous recevoir dans sa présence. Voyez-vous l'impact d'une telle vérité? La Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, il a été fait péché pour nous. Afin que nous, pécheurs, nous devenions justice de Dieu. Il y a eu une imputation de notre nature pécheresse et de tous nos péchés sur le Seigneur Jésus, et puis une imputation de la justice parfaite de Christ sur nous. Et c'est cela qui est extraordinaire. Voyez-vous l'impact? Nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance qu'il entend nos prières, qu'il nous aime, parce que la vie de celui à qui Dieu a rendu ce témoignage, « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », cette vie-là, cette justice-là a été mise à notre compte. Amen. En France, on garde toutes ces choses dans nos cœurs, hein, vous voyez. C'est-à-dire, on n'exprime pas trop nos sentiments. Hein. Vous allez partout dans le monde, ailleurs, en Afrique, en Amérique du Sud, ou je ne sais pas où, du Nord, vous entendez « Amen, Alléluia !» quand on a une telle vérité. Hein, d'accord ? On va refaire ça. Vous voyez l'impact d'une telle vérité. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Ah, c'est beau ça. Avec confiance qu'il entend nos prières. Qu'il nous aime parce que la vie de celui à qui Dieu a dit « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », cette vie-là, cette justice-là, elle nous a été imputée, mise sur notre compte.
Amen.
Ah là là, j'aime cette spontanéité chez les Français. Et puis enfin, Jésus a triomphé de toutes les tentations. William MacDonald a écrit dans son commentaire, « On a parfois prétendu que la tentation n'avait aucun sens si Jésus ne pouvait pas pécher. » Or, Jésus est Dieu, et Dieu ne peut pas pécher. Le Seigneur Jésus n'a abandonné aucun des attributs de sa divinité. Sa divinité était voilée pendant sa vie sur la terre, mais elle n'était pas pour autant supprimée, et elle ne pouvait pas l'être. Certains affirment qu'en tant que Dieu, Jésus ne pouvait pas pécher, mais qu'il le pouvait en tant qu'homme. Mais il est toujours Dieu et homme, et il est impensable qu'il puisse encore pécher aujourd'hui. Le but de la tentation, donc, n'était pas de voir si Jésus pécherait, mais de prouver qu'il ne pécherait pas. Seul un homme saint et sans péché pouvait devenir notre Rédempteur. Au fond, celui qui ne pouvait pas pécher a été tenté de la manière la plus forte et la plus subtile qui soit, par le diable lui-même. Les 40 jours ne sont pas le fruit du hasard, mais rappellent les 40 ans d'Israël passés et tentés dans le désert, et dans lequel ils sont morts, parce qu'ils ont défailli. La façon dont Jésus répond aux tentations du diable, en citant les versets des chapitres 6 et 8 du Deutéronome, nous confirme que Jésus pensait à l'expérience de la nation d'Israël au désert. Et il est tenté de trois manières différentes. La première tentation visait à satisfaire son corps. La deuxième, l'âme, et la troisième, l'esprit. Elles correspondent à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. Les trois tentations gravitent autour de trois des plus forts désirs de l'être humain: les appétits physiques, la soif de puissance et de possession, et le besoin d'être reconnu. En fait, il n'y a rien à redire à la finalité proposée par Satan dans les trois tentations. De manger quand on a faim, d'être reconnu comme le Messie, ou de posséder tous les royaumes de la terre. Toutes ces choses sont légitimes pour le Seigneur Jésus. Ce qui ne va pas, c'est le moyen pour parvenir. Et c'est toujours faux d'obéir à Satan, de l'adorer lui ou toute autre créature. Il est toujours faux de tenter Dieu. Vous pouvez être tenté dans des besoins matériels réels, mais si vous voulez ces choses d'une manière que Dieu condamne, alors vous péchez. Au désert, le peuple devait croire la parole de Dieu et avoir confiance qu'il pourvoirait à tous leurs besoins. Il leur a dit: « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Il devait croire la parole de Dieu. Il avait dit: « Je vais vous donner de la manne chaque matin. » Chaque matin, vous verrez le miracle de la provision de Dieu pour vos vies. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont gardé le premier jour pour en avoir le jour suivant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des vers se sont mis. C'était pourri. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Faites donc confiance au Seigneur. Et puis, il avait dit, le samedi, Shabbat, il n'y aura rien. Inutile de sortir, il n'y aura rien. Par contre, le vendredi, je vous donnerai pour le vendredi et pour le samedi. Et la nourriture du samedi, les vers ne s'y mettront pas. Ok. Vous savez quoi? Le samedi, plusieurs sont sortis pour en rechercher. Et il n'y en avait pas. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ils avaient besoin d'apprendre à faire confiance aux paroles et aux promesses de Dieu. Si Dieu n'avait pas voulu qu'ils vivent, ils auraient péri, rattrapés par l'armée de Pharaon, ou par la soif, ou par la faim, ce qui prouve qu'ils ne vivaient pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu. Jésus savait que Dieu avait un plan pour lui. Il avait donc confiance que son Père et sa parole subviendraient à ses besoins en son temps. Jésus savait qu'il ne mourrait pas au désert, mais sur une croix. Alors, dans l'année qui s'ouvre à nous, Il y aura aussi des tentations dans le domaine matériel, de nos besoins matériels. Comment réagirons-nous? Ferons-nous confiance au Seigneur? Il pourvoira à nos besoins selon sa promesse, en son temps. Il est Dieu. La seconde tentation que Luc rapporte consistait à inciter Jésus à dominer sur tous les royaumes de la terre simplement en adorant le diable. Jésus aurait eu ainsi le monde en son pouvoir, mais il aurait dépendu du diable et non de son Père. Et ici, Jésus cite Deutéronome 6,13, dans lequel Moïse mettait le peuple en garde contre son attitude lorsqu'il entrerait finalement dans le pays promis et qu'il aurait une certaine gloire et exercerait une certaine domination. Le peuple serait tenté de se glorifier lui-même et d'oublier d'adorer Dieu. Le peuple serait tenté de se glorifier lui-même et d'oublier d'adorer Dieu. Et en citant ce verset, Jésus montre qu'il ne commettrait pas cette erreur, mais qu'il accorderait tout mérite à Dieu, son Père. Vous allez réussir des examens cette année. Vous allez réussir dans votre carrière professionnelle. Vous allez réussir dans l'œuvre que le Seigneur vous aura confiée. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Dans la troisième tentation, le diable mit Jésus au défi de se jeter du haut du temple. L'idée était que si la nation d'Israël voyait Jésus tomber du temple de si haut et puis d'échapper à la mort, et qu'un ange vienne le rattraper, tout le monde allait applaudir et reconnaître en Jésus le Messie. Et la tentation, comprend, elle est forte. Il n'y a pas de renoncement, là. Il n'y a pas de croix. Tout le monde me reconnaît. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien. Il n'y a pas d'épreuve. Tout de suite, immédiatement, je suis reconnu. Et le diable va jusqu'à citer le psaume 91, versets 11 et 12, afin de montrer que le Messie serait protégé contre toute blessure. Vous savez, quand on veut échapper au renoncement, quand on veut échapper à la croix du chrétien, on va même trouver des versets dans les Écritures pour nous permettre d'échapper à cela. C'est malhonnête. Il dit ici que Jésus ne voulait pas être accepté du peuple sans passer par la croix. La croix était indispensable pour le salut du peuple. Et alors Jésus cite Deutéronome 6, verset 16, « Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Et Massa, ça fait référence à un autre épisode de la vie du peuple d'Israël au désert, rapporté en Exode 17. Le peuple a eu soif. Et il commence à chercher querelle à Moïse. « Hey Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte ? Là-bas, on avait de l'eau, on avait tout ce qu'il faut. » Alors Moïse va devant Dieu, « Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire de ce peuple ? Qu'est-ce que... » Et Dieu lui indique un rocher et lui dit, « Passe devant tout le peuple et avec ton bâton, tu vas frapper le rocher et l'eau jaillira du rocher et le peuple et tout le bétail pourront boire. » Et au verset 7, il dit, il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Voyez la chose, ce qui est dans leur cœur à ce moment-là, ils disent, on a soif. Tu vois bien, Dieu n'est pas avec nous, on a soif. La moindre difficulté, oh ben Dieu n'est pas avec nous puisque, voilà, ça ne se passe pas comme l'année qui s'ouvre devant nous ne sera pas parsemé de roses. Il y aura des difficultés, vous pouvez être sûr. Mais vous pouvez être sûr d'une autre chose. C'est que Dieu sera avec vous. Il l'a promis. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus avait confiance que Dieu était avec lui. Et que le plan de son Père, ainsi que le moment qu'il avait choisi, était parfait. Le plan de Dieu, vous le connaissez, ses voies sont droites, elles sont justes, elles sont meilleures que nos voies, ou que celles du diable, celles que le diable pourrait nous susurrer. Elles paraissent parfois plus difficiles, mais soyez certains, elles sont toujours les meilleures. Jamais quelqu'un ne s'est repenti d'avoir emprunté les voies du Seigneur, aussi difficile soit-elle. Mais on se repent toujours de ne pas les avoir prises. Vous comprenez, celui qui n'avait pas besoin du baptême de repentance a été baptisé parce qu'il est juste que les hommes soient baptisés en signe de leur besoin de repentance et de pardon. Celui qui n'a ni commencement ni fin de vie à une généalogie pour représenter parfaitement toute la race humaine défaillante. Celui qui ne pouvait pas pécher a été tenté dans tous les domaines dans lesquels nous sommes tentés et souvent défaillants, réussissant là même où nous avons échoué. Faisons ce qui est juste, ce que Dieu nous demande. Le baptême, c'est une œuvre juste, agréable à Dieu. Comme le dit à la fin du bulletin de ce mois-ci, qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé si ce n'est pas encore fait? Et si ce n'est pas encore fait, venez nous voir pour que ça soit fait. Faites ce qui est juste de faire. Et puis Jésus a triomphé de toutes nos tentations. Et sa victoire, il nous l'accorde. Alors venons à lui. Saisissons ses promesses, sa parole par laquelle nous vivons. Nous allons connaître des ratés cette année encore. Chaque fois qu'on a entrepris une nouvelle année, on a pris des bonnes résolutions. J'espère que vous en avez pris. Cette année, je lis la Bible en un an. Amen. Cette année, je ne quitte pas la maison sans avoir prié pour ma famille, pour mes amis, pour cette année, je vais m'engager dans la vie de l'Église. Très bien, oh très bien, très bien. Faites-les. La chose, c'est que, invariablement, nous manquons à nos bonnes résolutions. Et c'est là que l'homme parfait se présente à notre place devant Dieu. Lui, il a tout réussi. Il n'a jamais failli en quoi que ce soit. Et nous dit, j'ai réussi ou toi tu as raté. Et c'est cela qui nous accorde sa joie, sa paix. Et nous pouvons revenir avec un cœur plein de joie, de repentance, de désir d'aimer, de suivre et de réussir. Parce que lui-même nous a ouvert une voie parfaite. Alors, d'une certaine manière, nous avons déjà réussi 2014, parce que Christ l'a réussi pour nous. Mais cette affection pour notre Seigneur, ça bouleverse nos cœurs. La grandeur de ces vérités, de l'imputation de la justice de Christ à nos propres vies de pécheurs, ça bouleverse nos cœurs, notre entendement Et ça nous pousse à nous attacher fortement à lui. Et quand on s'attache au Seigneur, c'est là qu'on accomplit ce qui est juste. C'est là qu'on résiste à la tentation. C'est là qu'on tient ferme dans nos engagements. Que Dieu nous vienne en aide pendant cette année 2014. Prions.